Le passage que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui dans l'évangile de Marc au chapitre 5, les versets 21 à 34. Jésus regagna l'autre rive du lac en bateau et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. L'un des chefs de la synagogue, appelé Jaïrus, arriva. En le voyant, il tomba à ses pieds et le supplia instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. » « Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait, le pressait de toutes parts. Or, il y avait là une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il y a un an et demi, on va dire 18 mois, pas tout à fait 2 ans, une formule très courante était celle-ci, avec ou sans contact. Je ne la connaissais pas très bien encore cette formule, je suis toujours en retard. La première fois, je me rappelle que la question m'a été posée, c'était à la boulangerie. Et je me souviens de ne pas avoir compris ce qui m'arrivait. Je crois que j'ai répondu en riant bêtement. Comment ça ? Moi, je préfère le contact, moi. Du contact, voyons. Et je me suis emmêlé les pinceaux plusieurs fois. Ah là là, dans quel sens cette formule marchait-elle donc ? Parce que le « avec sans », c'est pas mon truc. Le « oui, j'en veux pas ». Oui, vraiment non. Le non, c'est bien ça, oui. J'ai toujours eu quelques hésitations. Et en plus, faisant ma maline, je croyais, j'ai appris ça en mathématiques, c'est la seule chose que j'ai apprise, je croyais que la négation positive, moins, plus, ou alors l'affirmation négative, plus, moins, ça s'annulait. Vous croyez ça ? Avec ou sans contact ? Je compris par la suite qu'il fallait surtout être réactive, enfin vive, rapide, pragmatique, gagner du temps, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait quand même, toujours et encore, ne pas hésiter, ne pas chipoter, tendre sa carte bleue, apprendre à dire sans nuance, avec assurance, non, avec du contact. Oui, sans contact. Enfin, je veux dire, oui, avec le sans contact. Déjà à l'époque, je trouvais ce slogan plein d'ironie et je me disais, ah, quelle belle parabole de notre façon de ne pas vivre ensemble aujourd'hui. Bonjour, je voudrais un billet de train en seconde, sans contact s'il vous plaît. Oui, place isolée, parce que j'aime pas trop les gens. Bonjour docteur, ce serait pour prendre rendez-vous? Non, non, pas une téléconsultation. Une consultation, enfin une consultation comme autrefois. Un rendez-vous, comment vous dire ça? Un rendez-vous quoi, un rendez-vous, une consultation, avec du contact, si possible. Avec ou sans contact? Vous imaginez une société où on pourrait choisir avec qui on veut être et avec qui on ne veut pas être. Ce serait l'idéal, n'est-ce pas? Que des contacts choisis, le pied. On s'assiérait uniquement à côté de qui on veut, de qui on aime, de qui nous plaît. Et puis on pourrait en commander autant qu'on veut, abonnement en illimité. Bonjour, vous reprendrez bien un petit peu de contact? Avec ou sans contact? Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer l'an dernier que la deuxième partie de cette formule allait devenir aussi célèbre, populaire? Une sorte de mot de passe, un passeport nécessaire pour passer, pour entrer, pour sortir, sans contact, d'accord, j'ai compris. Comment aurions-nous pu imaginer une seule seconde nous retrouver ici au culte, dans une configuration pareille, avec une telle panoplie, avec du sans et du avec? Si on était flanqué avec des espaces avec et des espaces sans. Attention aux abeilles, ça pique. Nous voilà rassemblés ici, avec du sans contact, partout. Cela dit, enfin, quand même, nous savons pourquoi nous sommes dans cette situation, parce que nous sommes très intelligents. Mais une des questions, c'est quand même, qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? Comment ne pas être esclave de ces masques et autres mesures? Comment ne pas subir une contrainte, une règle? Comment, au lieu de nous plaindre, pouvons-nous en faire peut-être autre chose? Le récit de l'évangile que nous venons d'entendre tout à l'heure nous invite peut-être à y réfléchir un peu. Voilà Jésus au milieu d'une foule qui l'entoure, qui le presse, et une femme se détache de cette foule anonyme. On va la suivre de plus près. Cette femme souffrait d'une double exclusion. D'abord, celle d'être femme. Je vous rappelle que la prière du juif pieux, c'était à l'époque « Merci mon Dieu de m'avoir fait ni athée, ni femme ». Deuxième exclusion, celle de souffrir d'une maladie que la société et la religion associaient à l'impureté par excellence et qui donc la mettait à l'écart de tous les autres. En quarantaine en permanence. Le temple aussi était totalement interdit d'accès. Il y avait des règles très compliquées que les pharisiens connaissaient par cœur pour gérer tout ça. Cette femme n'avait pas le droit de paraître en public. Elle n'avait pas le droit de sortir de chez elle parce qu'elle aurait pu contaminer quelqu'un, rendre quelqu'un impur si elle touchait qui que ce soit. Le sang, il doit couler dans les veines. Ça, c'est bien, ok. Mais il ne doit pas couler en dehors. Ça, c'est péché. Ainsi pour cette femme qui subissait en permanence des pertes de sang, toute sa vie était faite de souffrance et de solitude, exclue, exclue, constamment en alerte rouge, rouge sang, sans fin, une vie sans contact, confinée dans le malheur et dans l'isolement. Les relations avec les autres étaient impossibles, interdites, inimaginables. Mais oui, le sang doit couler dans les veines, un point c'est tout. Et tant pis si dans la vie, il y en a qui n'ont pas de veine. Par l'évangéliste Marc, on apprend que cette femme avait en plus consulté des tas de médecins, dépensé tout son argent, sans résultat, sans contact. Non seulement elle se retrouve ruinée, mais elle est plus que jamais malade. Sa situation a empiré, nous dit-on. Alors qu'est-ce qui reste ? Quelqu'un disait, elle perd pas seulement son sang, mais la vie, la dignité, c'est l'hémorragie de tout espoir de guérison. Mais cette femme, nous dit-on, a entendu parler de Jésus comme nous pouvons entendre parler de Jésus. Elle ne le connaît pas, elle n'a pas eu cette chance, évidemment. Comment aurait-elle pu, dans sa vie, d'exclue à perpétuité ? Mais c'est une histoire étonnante, une histoire de sang, S-A-N-G, et de sang, S-A-N-S, contact. Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle y va quand même. Parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Qui l'amènera vers Jésus ? Qui lui facilitera l'accès ? Personne, évidemment. La foule est compacte, dense. La femme presse Jésus de toutes parts, précise Marc. Impossible d'arriver jusqu'à lui à travers la foule. Jésus lui-même est encerclé, enfermé dans les filets de la foule. Il y a comme un mur de gens. Et cette femme n'a aucune chance de rencontrer Jésus, aucune chance de voir son visage, encore moins de lui parler. Mais elle, qui perd son sang, ses économies, son espoir, sa vie, elle n'a plus rien à perdre. Elle a déjà tout perdu. Alors cette femme seule, sans nom, sans contact, cette femme remplie de rien, se faufile dans cette foule, faisant fi de la force du jugement et de la loi sur l'impureté. Dans cette foule impersonnelle, froide, compacte, elle passe inaperçue, clandestine. Sa maladie, son malheur, sa vie sans contact est invisible pour les autres. Mais elle, cette femme sans nom, son anonymat, ça va être sa dernière chance, la seule. Parce que sa liberté intérieure, qui est tout ce qui lui reste, personne ne peut la lui prendre. Elle est libre à l'intérieur d'elle-même. Personne ne peut encore lui voler son âme, même si elle est transparente aux yeux de tous les autres. Rien, personne ne peut l'empêcher d'essayer de se faufiler à travers cette foule. Ni sa maladie, ni les lourds préjugés de son temps et de sa religion. Alors cette femme, traitée comme une intouchable, transgresse les gestes barrières imposés par la loi de ce temps, de cette culture, avec ou sans contact. Cette femme franchit la frontière de la foule et l'évangéliste nous fait même entrer dans son intimité, dans ses pensées. Il nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement parce qu'elle se disait, si au moins je touche ses vêtements, je serai guérie. Privée de ce face-à-face personnel avec Jésus, elle va cependant réussir à passer du sans-contact à la rencontre. De passer du sang au avec. Et comment ? De quelle manière ? En touchant son vêtement. Non pas Jésus, son vêtement. Elle va l'approcher sans le mettre en danger. Parce qu'elle est prisonnière de l'idéologie, elle se juge elle-même impure. Et elle ne veut pas faire courir ce risque à Jésus. Elle va le toucher de loin indirectement. Par ce bout de vêtement, elle a du tact, cette femme. Elle va effectuer un contact sans contact. Et ainsi, elle va toucher son prochain, Jésus, pour qu'il soit touché à son tour, au plus profond de son cœur. Et voici, la perte de sang s'arrête, elle sut dans son corps qu'elle était guérie. Surprenant ! Non seulement elle ne contamine pas Jésus, mais elle guérit. C'est une contamination à l'envers. Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Cette force n'est pas une perte, mais un don. Toute puissance de don de ce Jésus qui ne garde jamais rien pour lui. C'est ça le message de l'Évangile. L'amour qui n'est pas donné est perdu. Et dans cette rencontre, Jésus lui-même est touché dans tous les sens de ce mot. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Intense regard d'amour de ce Jésus qui va chercher qui c'est qui m'a touché. Et la force de ce regard le conduit vers la femme, ou conduit la femme à venir à lui, à se jeter à ses pieds, à lui dire toute la vérité. Toute la vérité ? Qu'est-ce qu'elle lui a dit à Jésus ? On ne le sait pas. Cela ne nous regarde pas. C'est la vérité de sa vie, c'est de son histoire qu'il s'agit. L'intimité d'un face-à-face avec le Christ. Car finalement, la vraie question, ce n'est pas de vivre avec ou sans contact, mais c'est de vivre avec ou sans le Christ. Amen. Thank you.